France Inter.
Bonjour.
Dit, avec Lisa, avec Moitié, avec Laura Domange, avec Julien Zanetti, Tanguy Bassureau, Anne Delaf, Daniel
Morin,
et nos invités Oulaya Amamra et Sabrina
Wazemoukou. Bonjour. Bonjour. La bande originale, Leïla Kader et Nagui.
Sabrina.
Comment ça va?
Très bien.
Bon,
toujours contente d'être là.
Toute pour une, mais une toute seule.
Bah là, pour le coup, une toute seule parce qu'une est en retard.
Ok, très bien. Très bien. On va quand même avec vous et Oulaya Amamra parler de ce film signé Ouda Benyamina, qui est sa sœur. Et justement, faisons un petit tour. Installez-vous tranquillement.
Allez là.
Vous n'êtes même pas obligé de marcher vite. Hein. Détendez-vous. Voilà. Prenez votre temps.
Un petit bisou.
Voilà. Franchement, c'était un petit retard. Hein.
Votre temps.
Désolé,
bonjour, tout va bien. D'ailleurs, c'était pour vous la première question. Est-ce que c'était difficile de travailler avec sa sœur?
Difficile, ouais.
Oui, c'est difficile.
Bah, c'est plus dur que de travailler. C'est plus dur que de pas, enfin, de travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas.
Voilà. Alors, c'était ça la question que je voulais poser à tout le monde, parce que c'est la question. Est-ce possible ou pas, Lisa, de travailler en famille pour toi? Est-ce que tu l'as déjà fait déjà? Est-ce que tu l'imaginerais?
Je pourrais le faire. Mais mon je pourrais travailler avec mon frère, mais mon frère fait à bouffer. Moi, je sais pas faire à manger.
Oh, sympa.
Non, mais travailler, je parle pas de coloc, je parle de travail.
Mais oui, travailler avec mon frère, non, je pense que c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée. Non. Ok. Leïla, travailler en famille, ça t'est déjà arrivé ou jamais?
Non.
Jamais?
Ok.
Et ça pourrait?
Non.
Merci. Non, mais en famille, ça peut être avec ton mec ou avec ta fille quand
non,
tu.
Non, non, c'est surtout pour lui que je disais.
Ah,
non.
D'accord, ok. Laura?
Moi, je travaille avec mon mec.
Tu travailles avec ton
mec?
C'est
le régisseur de mon spectacle. Et alors, bah, c'est
tu l'emploies,
hein,
tu vas dire
que on a
tu l'emploie.
Eu... Je l'emploie, effectivement, ça, c'est moi la patronne, ça, voilà. C'est vrai. Et c'est, on a déjà eu des scènes de ménage pendant le spectacle avec le public au milieu en otage.
Non,
c'est très très drôle, ouais, c'est très drôle.
J'adore. Julien, ça te viendrait ou ça t'est déjà arrivé de travailler en famille?
Moi, j'allais dire, je travaille pas avec ma femme, mais je lui dois tout. C'est que quand je l'ai rencontré, j'avais arrêté le théâtre. Et quand je l'ai rencontré,
elle m'a dit, revenu.
Tu es le mec le plus drôle du monde, il faut que tu reviennes. Mais par contre, ce jour-là, il faut que tu ne lâches rien. Et je l'ai fait à ce moment-là.
Très bien. Tanguy, l'idée de travailler en famille?
Non, avec personne. Moi, je travaille toujours tout seul. Je suis vraiment solo. J'arrive pas à travailler avec d'autres.
Ça, c'est vrai.
Mais même ado, t'as pas fait un stage avec tes parents?
Jamais de stage, jamais parlé à personne.
Jamais.
C'est clair, lâchez-moi deux minutes.
Non, moi, je la laisse vivre sa carrière où elle chante Bruxelles, je t'aime, etc. Ça marche très bien. Sans moi, voilà.
C'est excellent.
Ah, le mytho.
Par contre, Nagui, moi, je ne savais pas que Sabrina et Oulaya, vous étiez sœurs. Je l'ai découvert.
Non, Oulaya est la sœur de Ouda. Suis un tout petit peu.
Mais en même temps, elle se ressemble, il y a une vraie ressemblance.
Les cheveux, bah, ça va plaisir.
Sabrina, travailler en famille, ça vous
moi,
est
ça
arrivé?
Ça m'est jamais arrivé, mais je me suis mis pas mal de fois à la place d'Oulaya et c'est vrai que c'est une pression parce que c'est à la fois un énorme cadeau, ce rôle de D'Artagnan, mais en même temps, il faut être à la hauteur de.
Ne pas décevoir sa sœur.
Ne pas décevoir, ouais, exactement.
Ah, déjà, ne pas décevoir le ou la réalisatrice, c'est un premier taf.
Oui, oui.
Quand en plus, c'est la frangine.
Bah, c'est ça, parce qu'après, tu vas la revoir à la maison le soir. Enfin, tu vois, si ça se passe mal, tu sais que.
Que ça va continuer de
couler. Bah non, voilà. Mais c'est dur de différencier. Après, j'avoue,
c'est un peu comme le harcèlement. Maintenant, il continue sur les réseaux sociaux, il s'arrête pas à la sortie de l'école. Là, c'est pareil.
C'est ça. En tout cas, on a fait un vrai travail. Elle a sa casquette de réalisatrice et casquette de sœur, ce qui est quand même cool, parce que des fois, elle peut être hyper exigeante pendant le tournage et à la fin me dire ça va, tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Bah non, enfin, c'était pas la même personne en fait.
C'est ça.
Mais
Daniel travaille en famille.
Ben moi, ça se passe très bien. Je travaille avec le mec de Leïla et
non, je parlais de ta famille.
Ouais. Oui, ben non. Je suis seul, tu sais, Nagui. Tu t'es abandonné.
Non, mais et inversement, quand t'étais gamin,
t'as
même pas commencé à travailler dans la boîte d'un membre de la famille. Ouais, ça peut être, je sais pas, chez tonton, chez les grands-pères.
Ouais. Non, mais j'ai un peu le profil de Tanguy Pastureau.
C'est inquiétant.
À faire travailler ça.
Ouais. Je suis un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire, je pense que ça peut, sur une courte période, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire se dire, ok, pendant deux mois, non, il m'est arrivé de produire une fiction dans laquelle jouait ma femme, là il faut bien cloisonner en effet, pas franchir la ligne et puis se dire c'est qu'une période, c'est pas ad vitam aeternam, parce que ça c'est compliqué. Autre chose. C'est réussi en tout cas ce film aussi, avec une histoire d'amitié ou de sororité, puisque Divine parlait déjà, le premier film, Douda Benyamina parlait déjà de ça. On le retrouve avec Toutes pour une, qui est un détournement d'Alexandre Dumas, clairement.
Oui, c'est ça, on a
non,
réadapté.
Détournement, non, Sabrina, c'est la vraie histoire.
C'est la vraie histoire, effectivement. C'est de celle-ci qu'Alexandre Dumas a tiré son inspiration.
Non, suivez-moi,
Sabrina, suivez-moi. Je te suis, Leïla, je suis avec toi. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du bouquin d'Alexandre Dumas et Ouda a un petit peu tout réinventé, de par le fait que ce soit nous qui interprétons
ces
mousquetaires.
Alexandra Dumas.
Voilà, c'est ça. Sauf que le Chevalier d'Éon et des mystifications hommes-femmes et des femmes déguisées en hommes pour pouvoir être espionnes ou combattantes, ça a toujours existé.
Ça a toujours existé.
Donc c'est crédible.
Complètement. Je regardais hier un documentaire sur Arte qui parlait juste après la Révolution de ces femmes qui justement se sont fait passer pour des hommes pour combattre ou pour être dans la marine. Et effectivement, nous, c'était intéressant de traverser ces corps et ces genres et d'aller explorer un petit peu le thème de l'homme. Puis ce film, il est à la fois, il parle aussi de la sororité, de l'amitié, mais aussi de la pression qu'ont ces hommes, de ce qu'on attend d'eux, de la virilité toxique, et effectivement aussi de ce qu'on attend des femmes à cette époque.
C'est super parce que c'est à la fois un film d'aventure, c'est un film aussi avec un parti pris, un véritable regard. On n'en attendait pas moins de la réalisatrice, dont on attendait la suite. Et puis aussi, c'est des scènes de comédie extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'intersection de plein de genres, et ça doit être super à jouer.
Ah ouais, nous, on s'est éclaté à prendre... à être sur ses chevaux, à prendre l'épée,
à vous battre.
Vous avez
fière allure, il faut le dire. Vous avez fière allure.
On a profité, on a bien bossé. Mais tu sais, et puis il y avait une liberté.
C'est vrai qu'il faut citer,
Daphné Pataka et Déborah Lukumuena, qui ont été des merveilleuses partenaires, effectivement. Et nous, ça a été génial parce qu'il y avait aussi une liberté qu'on a cherchée, qu'on a fini par trouver aussi avec Ouda, qui nous disait mais allez-y, frimez, vous êtes des mecs, vous pouvez vous la raconter.
Prenez votre place
dans ce monde.
J'ai l'impression que ça, c'était la phrase. Prenez votre place, c'était la phrase qui
ouais,
est dit
complètement ouais, ouais tout le temps, prends ta place dans le monde, prends, il y a un côté un peu comme ça, je trouve, les hommes ils prennent leur place en fait, ils ont pas besoin
métro, dans le métro,
mais déjà dans le métro on a remarqué sur les trottoirs aussi, parce que quand on a fait des mises en situation en mec, on s'est rendu compte qu'en fait les mecs ils se décalaient pas
jamais
en fait, c'est inné, une femme va se décaler, enfin tu vois, il y a un truc en fait de
à déconstruire.
J'ai bien autour de la table, il y a aucun mec qui moufte et toutes les filles font ouais,
mais c'est pour ça qu'il faut marcher droit, les filles. Il faut marcher droit, pas dévier de la ligne.
Et nous, il ne faut pas s'asseoir. On en parle jusqu'à 12h30 de ce film, parce qu'il y a beaucoup d'autres messages aussi, y compris autour de l'intégration de la religion et de cette vision particulière faite du roman d'Alexandre Dumas. Ça s'appelle Toutes pour une, et c'est au cinéma aujourd'hui. Voici Hold de Laf, il est tellement fan de vous, Hold de Laf. Fan de Sabrina, fan d'Oulaya.
Je suis fan de Sabrina Ouazani. Je suis tellement fan que j'ai l'appli Ouazavi. Le titre du film L'Esquive était peut-être mal trouvé. Je m'étais pris une claque quand je l'avais vu au ciné. Je suis fan d'Oulaya Amamra, malgré un mauvais souvenir au cinéma. Un ticket pour quel film on m'avait demandé. J'ai répondu Divine, mais le type a pas deviné. Et vous êtes là pour le film Toutes pour une, super. Comme des mousquetaires sans la queue, bref, des moustères. Grâce à vous, on va avoir Pinfer version fille. Harry Potter, Monte Cristo, Citizen, Barbie. Je suis fan de Sabrina et d'Oulaya Amamra. Et je suis fan de votre sœur Ouda Benyamina. Apparemment, plus il y a de talent et plus il y a de A. Tout le monde le sait, même les Fujis ont chanté ça. Oulalaya, rien à voir avec Oulaya Nakamura. Oula Mamra, rien à voir avec le club près d'Antalya. Ouh Sabrina, elle fait du kung-fu, moi j'approche pas. Votre devise est super, c'est la même que notre Dani. Quand il voit ses denrées pour toutes et toutes pourries. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Dans tout conflit, je suis souvent pour le plus faible et Daniel, il se prend une balle à chaque fois. Quand même.
Oui, mais c'est bien. C'est bien. Si, si, il a mérité, mais franchement.
Ça requinque, ça requinque.
Il est où, il est quand?
Mais il est nulle part, tout est annulé. Il a arrêté sa carrière et j'ai envie de dire, il était temps. Bon, quelquefois au grand point virgule le mardi pour l'opération Bretzel, ça marche toujours?
Non, ça marche plus.
Eh ben voilà, tu vois, je t'ai dit qu'il fallait qu'il arrête.
L'Olympia le 10.
Comment?
L'Olympia
le 10 mai, ouais.
Voilà. Tu vas voir qui?
Vous voyez, il est aigri.
Quand Sarah, jeune fille en fuite, découvre que les trois mousquetaires qui protègent la reine de France sont en réalité des femmes, elle décide de partir avec elle. Faut dire que, à la base, elle est plutôt emprisonnée. Et là, on est dans une guerre ou une chasse aux sorcières, une guerre de religion.
Ouais, complètement.
Ouais, les mauresques, en fait, au XVIIe siècle, ont effectivement été chassés par le roi de France. Les mauresques, c'était vrai. Les Espagnols musulmans. En fait, et donc effectivement, on commence cette histoire avec cette mauresque Sarah qu'on rencontre et qu'on libère.
Mais qui est en cage, qui est carrément en cage. C'est-à-dire que l'image est d'une violence inouïe. C'est vraiment comme des bêtes. Déjà, voir des bêtes en cage, ça fait mal au cœur. Voir des êtres humains, c'est encore plus choquant.
Oui.
Et là, elle est à la fois enfermée, enchaînée, prisonnière, et à la fois en observation avec un petit côté
espiègle.
Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je vois ce que je vois? Ouais. Est-ce que dès le début, dans l'intention, elle devine que ce sont des femmes? Non, parce qu'après, elle sera surprise quand elle va le voir.
Oui, complètement. Elle voit des hommes et en fait, elle voit une porte de sortie. Hein, parce que là, on parle que de survie, justement, et c'est la mort ou la mort. Enfin, il n'y a pas d'autre solution.
Porte de sortie alors qu'elles veulent aller au secours de la reine de France et ça ne va pas forcément en sa faveur.
Non, parce que la reine de France, en fait, son frère, qui est le roi d'Espagne, en fait, a chassé justement sa famille et les a tués, parce qu'à l'époque de l'Inquisition, ils chassaient et ils forçaient les musulmans à se convertir au catholicisme.
Ouais, croisade, pure.
Exactement. Et du coup, donc tu devais renier. C'est vraiment ce film. Il parle de déracinement, hein, justement. On devait renier donc sa religion, renier son origine. Et le personnage de la reine, justement, à ce moment-là, elle se rejoignent à cet endroit-là parce que la reine, elle a dû venir en France.
Elle a souffert aussi.
Sa langue. Ouais. Elle a souffert aussi. Et elle a oublié
subi
sa langue.
Une forme de racisme. Exactement. Et d'exclusion.
Exactement. Et qu'est-ce que c'est dans le corps en fait de renier d'où tu viens? Et finalement, elle trouve une famille, quoi, une nouvelle famille.
Ouais, sauf qu'elle va aller au-delà, justement, en jouant le jeu de protéger la reine, sans forcément se dire immédiatement qu'elles ont une connexion. Elle voit simplement un intérêt immédiat, celui de sortir de cette cage, en disant, moi, je connais des chemins qui vont vous permettre de trouver des raccourcis par les sentiers battus pour aller en Espagne. Je connais par cœur ces chemins. Faites-moi confiance. Et là, il y a ce petit flottement-là. La différence qu'il y a entre vous, Oulaya, et les autres personnages, c'est que vous, vous avez un tour d'avance, vous savez que vous êtes des femmes, vous voyez une femme, et là, peut-être que la sororité commence à réagir.
Ouais, bon alors moi, mon personnage Athos, c'est vraiment l'antagoniste de D'Artagnan, c'est celui plutôt qui ne veut pas de D'Artagnan dans le groupe et qui n'a pas envie de l'inclure en tant que
mousquetaire. Parce qu'elle a des doutes, elle craint toujours l'incident et le danger. Ouais,
il faut parler de lui au masculin.
C'est vrai.
il est très méfiant, Athos, c'est quelqu'un qui a un grand problème avec l'injustice, qui a un passé qui est assez lourd, mais un peu comme les deux autres mousquetaires. Et donc effectivement, cette famille, ils l'ont créée de gré de force, ça a été compliqué. Et donc ils ont peur que des choses s'effritent ou de fragiliser cette bande et ce groupe.
Il y a ce contexte-là, il y a évidemment toute l'histoire. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire on connaît l'histoire des trois mousquetaires et donc on voit rapidement toutes les références dans la narration. Avec Richelieu, avec la trahison, avec tout ce que l'on a en tête dans la culture entre guillemets traditionnelle, mais par le prisme justement de ces femmes qui se maquillent. On est vraiment dans presque dans Mission Impossible, hein, c'est-à-dire qu'il y a des postiches, des fausses moustaches, des bandes pour comprimer la poitrine et ne rien voir. La prothèse, la ceinture God, elle est formidable quand même, cette scène-là.
Et on l'avait toute. Et je peux te dire que c'était drôle parce que moi j'ai vraiment choisi la taille. Et il y a un moment, je disais au costumier, bah, plus gros. plus gros. Elle me disait, non, encore non, plus gros. Non, elle me disait, mais Sabrina, ça n'existe pas. Et j'étais là, mais attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de comparer? Je compare. Faites-moi voir la vôtre. Ouais, non, plus gros. Et j'étais là, tu sais, tout d'un coup, il y avait un truc très masculin, pardon, monsieur.
Un problème de mémoire.
Petit problème masculin.
Un problème de mémoire, vous ne souvenez pas des autres.
Peut-être aussi, effectivement, vous savez, moi, vous étiez, je suis une sainte, je ne connais pas. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Vous êtes vraiment entrée dans la peau d'un homme, en fait. Vous êtes
dans la peau. Je suis rentrée dans la peau d'un homme à comparer nos sexes, à dire, moi, je veux la plus grosse. Donc voilà, il y a un moment, je me suis dit, là, je suis peut-être un peu trop rentrée dans le personnage, je me calme.
Mais alors, quel intérêt de l'avoir sous les vêtements? Quel intérêt d'avoir, on le comprend dans la
scène. C'est interdit par la loi,
c'est de le ressentir. La démarche, on a un truc
en plus
sortant, un truc en plus, un truc entre les jambes qui fait que même pour la démarche, en fait, ça change beaucoup de choses, quoi. Donc,
même la manière de se tenir, tu peux pas croiser les jambes.
Donc maintenant, vous comprenez les mecs dans le métro avec le men's wedding, alors.
Ouais, mais bon, non, vous abusez un peu.
C'est clair, c'est clair. Elles sont pas si grosses que ça, finalement. On peut serrer les jambes dans le métro. Je suis d'accord.
Oh oui.
Il y a
cette dans le métro.
Il y a cette découverte que vous faites, c'est-à-dire, ce sont des femmes. Votre personnage immédiatement se dit, je tombe sur un secret et je vais me faire zigouiller, ou se dit je vais être de la bande, ou se dit, enfin, qu'est-ce qui se passe dans l'intention que vous jouez à ce moment-là?
Eh ben, son premier réflexe, c'est de partir, de fuir, parce que justement à l'époque, les femmes qui sont tuées, elles sont pendues.
Celles qui se déguisent en hommes sont condamnées. Ouais.
Complètement. Et en fait, elle lui dit une phrase, mais tu vas pas passer ta vie à fuir. De toute façon, qu'elle soit Maurice ou qu'elle soit femme qui se déguise en homme, en fait, elle est condamnée.
Et elle coche toutes les
Au moins, on est ensemble. En fait, c'est ça qui raconte ce film. C'est au moins, on est ensemble. Quoi. On est dehors la loi, mais on est ensemble et on va.
Et c'est cette scène. Et ce qu'on voit dans la bande-annonce, d'ailleurs, le cri de toutes pour une vient justement à ce moment-là où vous décidez de passer de 3 à 4.
Il existait avant.
Et de l'accueillir. Oui, mais dans la bande-annonce, c'est ce moment-là.
Oui, effectivement.
À la lueur d'un feu de bois où vous décidez, avec les bandelettes dehors, de vous réunir et d'ensemble chercher à rattraper la reine et la protéger contre les mercenaires. On en parle jusqu'à 12h30. Le film est signé Ouda Benyamina et on va en parler aussi avec Lisa Desmoitiers.
Oui, Lisa.
Bravo, parce que Lisa, vous auriez pas fait un remake des Mousquetaires comme ça. Hein.
Non. Dans le film, j'ai prononcé la phrase avec une bite, on a moins peur.
Ouais.
Vraiment?
Ouais.
Mais moi, j'aurais trop peur d'avoir une bite. J'ai déjà peur quand j'ai des boucles d'oreilles qui pendent. Un organe, j'aurais constamment peur qu'on l'arrache. Je serais toujours en train de le protéger. Ma partie préférée d'un match de foot, c'est le coup franc. Quand tous les joueurs de l'équipe qui défend essaient de contrer le tir en faisant un mur, mais en cachant leur zizi avec les mains. C'est trop mignon, ce mur. C'est l'inverse d'un glory hole. C'est un pitié et tout, mais pas mon kiki hole. Mais je comprends. Moi, si j'avais un truc qui pend, mais je passerais ma vie à le protéger. Comme quand je m'attache les cheveux avant le sport, quoi. Je chercherais à mettre ma bite à l'abri. C'est peut-être pour ça que les hommes veulent tout le temps nous pénétrer. Je cherche pas le plaisir, je cherche une cachette. C'est chaud, c'est limite, c'est un vagin ou la cave de Saddam Hussein.
Elle est où?
Les filles, vous avez pensé, regardez s'il était pas dans notre chat, Xavier Dupont de Ligonnès.
Oh, mais ça va pas.
Mais c'est vrai que la bite, bien qu'exposée au monde extérieur, semble donner du courage à vos personnages, Oulaya Amamra et Sabrina Ouazani, puisqu'elles se font passer pour des hommes, on l'a dit, dans tout pour une, avec un faux chibre et de la barbe. Moi, j'ai un peu de barbe aussi, moi. Si c'est vrai, sur les tétons.
Merci pour l'information.
Chaque mois, quand viennent mes règles, j'ai un putain de cheveux noirs qui me poussent sur l'aréole. Ça me déprime, on dirait que Rapunzel essaie de se casser par mon nichon, quoi. C'est vraiment... Mais en voyant le film, je sais pas pourquoi je donne trop d'infos sur moi. Mais en voyant le film, je me suis interrogée sur ce qui fait qu'avoir des attributs masculins donne de la légitimité pour se battre et pourquoi des femmes ne pourraient pas être les trois mousquetaires, puisque c'est le sujet du film. D'office que c'était des femmes, les mousquetaires, qui portent des cuissardes. Enfin, à part les femmes, les drag queens et Daniel après 23 heures. Moi, je m'interroge en ce moment sur la place de l'énergie féminine et de l'énergie masculine dans ma façon de vivre, parce que je suis convaincue qu'on a les deux. Moi, j'ai de l'énergie féminine, par exemple, j'aime prendre soin des autres, mais j'ai de l'énergie masculine. Dès que j'ai un rhume, j'écris mon testament. Attention, quand je dis énergie féminine, je veux pas dire que c'est une caractéristique des femmes. On a tous, hommes, femmes ou autres, les deux énergies. Mais ces dernières années, je crois que j'ai trop investi mon énergie masculine. J'ai fait du sport pour prendre du muscle. J'ai même chopé une infection urinaire pour avoir une raison de me gratter l'entrejambe en permanence. C'est ridicule, quoi. Je vous jure, moi, je fais trop le bonhomme. Même envers moi, l'autre jour, j'ai raté un créneau, j'étais là, bah, tu m'étonnes. Je suis auto-sexiste, quoi. En vrai, je sais pas, mais il paraît que l'énergie masculine, c'est notre côté qui agit et qui résonne. L'énergie féminine, c'est le côté qui est et qui ressent. Et ma résolution de de l'année, c'est justement d'écouter plus mes émotions, mon intuition, et d'être moins dans l'action. Ce qui est juste une longue façon de vous dire que Nagui, cette année, je peux en foutre une. Voilà. J'ai pas la flemme, j'honore mon féminin sacré. D'après le calendrier chinois, 2025, c'est l'année du serpent. D'après le calendrier Lisa, c'est l'année de la sieste. Voilà. Je sais pas si c'est vrai cette théorie sur l'énergie, parce que je voudrais pas tomber dans le discours de Mark Zuckerberg qui dit qu'il faut ramener de l'énergie masculine dans le monde du travail. Le gars t'explique qu'il s'est musclé le cou pour être plus viril parce qu'il lui faut un coup solide quand il combat. C'est sûr que c'est pas juste quand tu suces Trump. Enfin bon, ce qu'il faut aussi. Hein. Il faut une nuque quand même hein, pour tenir le.
Oh wow.
Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est inspirant.
On a l'image en plus. C'est ça. Wow, wow. Donc,
ce qui est sûr, c'est que c'est inspirant de voir vos personnages en étant obligés de se faire passer pour des hommes, trouver la force, l'émancipation et le courage de s'affirmer en tant que femme au final. Un courage qu'on a avec ou sans pénis, avec ou sans barbe. Barbe qu'on peut avoir, je le rappelle, au cou ou au nichon.
Merci. Lisa Delmoitier, merci pour l'image.
Toutes les images.
Oui, exactement.
Sur scène, vendredi à Moucron et samedi à Tournai.
Mmh. Oulaya Amamra et Sabrina Ouazani sont nos invités pour parler donc de Toutes pour une au cinéma. Aujourd'hui, film signé de Houda Benyamina, après son formidable succès reconnu, récompensé et honoré et applaudi de Divine. Le premier travail que vous avez eu à faire, c'est celui d'observer le comportement des hommes pour justement, je parle dans la société, je parle pas sur le plateau de tournage, et de travailler la voix. C'est la voix qui a été le plus difficile.
Bon, moi, Nagui, la voix de Sabrina, elle n'avait pas de mal. Moi, il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là.
Et vous, Léa ?
Oui, moi, la voix, c'était un vrai problème. Enfin, un vrai problème. C'est ce qui me trahissait direct quand on a fait des mises en situation, justement, où on appelait, tu vois, pour réserver une table, tu vois, pour essayer, justement...
Dans la vie de tous les jours, vous
voulez dire ? Dans la vie tous les jours, oui, oui, complètement, quand on était avec Houda en répétition. Et en fait,
vous appeliez
oui,
quoi, un restaurant pour faire passer pour un mec.
Par exemple, ouais, pour et en fait, on voyait si on nous disait monsieur,
bonjour monsieur,
madame. Ouais. Bah, Sabrina, c'était bonjour monsieur direct,
automatique.
Mais ça, bien avant le tournage.
Exactement, ça, depuis toujours.
Vraiment ?
Ah bah oui, moi depuis toujours, depuis petite, je m'entraînais à appeler mon papa au travail et tous les jours, je disais bonjour, est-ce que je pourrais parler à mon père Abdel ? Abdel, c'est ton fils. Non, et tous les jours, je rappelais en espérant qu'ils disent Abdel, c'est ta fille un jour. Ça n'est jamais arrivé.
Et vous n'avez jamais cherché à monter dans entre guillemets dans les aigus.
Non.
Non, mais elle est très belle, super, votre voix, ouais. J'adore, mais est-ce que quand on est gamine...
Il y a un moment où j'essayais de parler un petit peu comme ça, parce que j'étais très complexée par ma voix, effectivement, et donc, puis avec l'âge, on finit par s'accepter tel qu'on est, mais c'est vrai que là, pour le...
Surtout que plus haut, vous pouvez pas la poser, votre voix, vous êtes toujours en tension, c'est tout la voix, ça tient pas.
Mais ça a été pendant très longtemps, parce qu'on m'a tellement fait, on m'a fait culpabiliser, complexer sur ma voix, mais aussi sur mon accent de banlieue, et donc du coup, j'avais l'impression quand la féminisant, prendre un petit peu plus de temps. Oui. J'avais l'impression que ça s'entendait moins. Et puis on me disait ça, sans comme si c'était un énorme défaut et sans me dire comment m'améliorer, entre guillemets. Donc c'était...
C'est se renier tout d'un coup.
Ouais, c'est se renier. Après, moi, je suis pour évoluer et apprendre des nouvelles choses et pouvoir passer d'un truc à un autre. Oui, c'est juste que c'est pas moi et que je suis tellement entière, j'ai pas envie en fait de réfléchir et d'intellectualiser avant ou d'anticiper les choses.
Il y a... C'est un film en costume, c'est un film d'époque, entre guillemets, on a toutes les références
avec beaucoup d'accessoires
avec une image aussi très très colorée. C'est-à-dire que clairement il y a des scènes au bord d'un lac ou d'une rivière, j'en sais rien, mais où on se dit waouh, c'est pas une couleur de film d'époque qui tend vers le pastel, vers le léger. Au contraire, ça claque et le soleil est très présent aussi. La lumière est très présente, même s'il y a aussi des scènes mais très lumineuses près d'une cheminée ou dans l'obscurité des douves ou des châteaux. Oulaya, vous avez passé un véritable casting, c'est-à-dire que dans une interview, Houda Benyamina dit j'ai écrit ce rôle pour elle, mais je lui ai fait quand même passer des essais.
Mais elle ne peut pas s'empêcher. Je sais pas,
elle vous torture, non ?
Non, mais je pense qu'elle a besoin de confirmation. Après aussi, chaque personnage est différent. Il faut aussi, on est actrice et on peut tout jouer, mais il faut quand même aller avec le personnage, et je pense qu'elle a besoin de tester des choses, tu vois.
Mais aussi que vous soyez légitime et que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir été choisie parce que je suis la sœur d'eux.
Parce que je suis sa petite sœur.
Bah ouais.
Complètement.
Un an et demi de boulot, vraiment ?
un an et demi de boulot.
À quoi faire ?
À faire cheval, escrime, flamenco, danse orientale, flûte.
Espagnol.
Enfin, tu vois, il y avait
déjà... masse.
Ouais, complètement, on avait des cours
de... carrément de la... Pilates, yoga, gym.
Moi, j'ai pris 12 kilos de muscles pour le film.
Mais non, 12 ?
Ouais. J'étais trop maigre avant.
12 en chaque bras,
du coup,
je vais dire, c'est peu, quand même.
Non, mais en fait, on a préparé ça comme un sportif, comme des sportifs de haut niveau. On avait une nutritionniste, on avait des coachs. On avait
coach, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Et c'était agréable ou pas ?
Complètement. C'est
vous sentez bien de faire du sport, vous sentez bien d'être suivi, ouais, c'est ça ?
On se sent puissant.
Et puis, c'est rare en France d'avoir tous les outils aussi qu'on nous mette tout ça à disposition. Ouda, elle y tenait. Ouais. Tu sais, tu parlais de la lumière en même temps. Moi, je la voyais imaginer ses cadres un peu comme des peintures avec son chef opérateur Christos. Je trouvais ça merveilleux. Et puis, nous aussi, de nous dire, OK, je veux que vous soyez comme ça, Sabrina, je veux que tu grossisses, tu prennes en masse pour certaines, etc. Voilà, je veux tel corps.
Et pareil pour Déborah et Daphné. C'est-à-dire le travail était toutes les cascades.
Vous faites toutes les cascades,
les combats, comment ça s'est réglé comme une chorégraphie ?
Alors, on a été d'abord accompagné par la famille Sanabra chez Pégase Prod. On est parti en immersion à Salbris, en Sologne, où on a passé effectivement des semaines, des mois à travailler limite 7 sur 7 à fond. C'était merveilleux. Effectivement, ils nous ont appris l'équitation et l'épée. Puis après, on a eu quand même des doublures qui sont venues nous pousser, nous accompagner, être là si on en avait besoin. Parfois, on n'en avait pas du tout besoin. Je sais que voilà, Déborah, elle n'a pas été doublée à la cascade combat, exactement. Très peu.
Il y a des scènes, parce qu'il faut le dire aussi. Évidemment, on est avec l'histoire des Trois Mousquetaires, féminisée. Il y a ce message autour de la sororité, ce message autour des guerres de religion également. Ouais. L'amitié qui est évidemment très présente, très forte. Et puis il y a de l'humour aussi. Il y a des scènes qui sont extrêmement drôles.
Dans la calèche, il y a une scène d'exception.
C'est ma scène préférée.
C'est une scène absolument folle où ils interviennent pour récupérer des chevaux dans cette calèche face à deux nobles, en fait, un homme et une femme.
Ils sont en train de manger, de mémoire.
Oui, c'est ça, ouais. Et on avait faim.
Et surtout, ils essaient d'inciter l'homme à pleurer en lui disant...
Tu as le droit. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui questionne. C'est un film qui parle effectivement d'amitié, de sororité, qui parle d'identité aussi. C'est important de le dire parce qu'on vit dans une société en pleine crise identitaire où on ne sait plus le genre, par quoi nous définir. Est-ce que c'est un habit ? Est-ce que c'est un paraître ? Qu'est-ce qu'on est profondément ? Est-ce qu'on a le droit d'être qui on a envie d'être ? La réponse est oui, évidemment. Mais c'est un long chemin parfois.
Ce qui est réussi en tout cas dans ce film, c'est qu'on peut le regarder en ayant envie de s'amuser. On peut le regarder en ayant envie de vivre le suspense. On peut le regarder en voyant des messages plus sociétaux ou politiques, voire religieux, mais tout ça est mêlé. Et il est surtout réussi, bien interprété. Daphné Patakia, Déborah Lukumwena, Sabrina Ouazani et Oulaya Amamra, ça sort aujourd'hui au cinéma, signé Ouda Benyamina, et c'est une réussite. Voici Julien Santini.
Merci beaucoup. On commence d'abord par le commentaire du jour à la suite de ma chronique où j'annonçais que j'allais peut-être me faire virer et que ce serait ma dernière.
Ouais.
Thibaut PLS 8428 écrit « J'adore ce qu'il fait, si c'est sa dernière chronique et qu'il se fait virer, il pourra toujours aller sur Nova. » Ce à quoi, c'est vrai, une personne mal intentionnée de la race des haters répond « Il a clairement pas le niveau. » Alors, c'est...
Pardon.
Merci Sabrina. C'est vrai.
C'est cruel parfois.
C'est vrai que je ne fais pas de chronique où je dis « Mardi à l'Assemblée nationale, sachez que 3 points de suspension, branlage de nouilles. » Non, j'avoue. Pourquoi parce que j'en ai rien à foutre de ce que fait l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule Assemblée nationale pour moi, c'est celle du peuple corse. Une seule équipe. Astrade Radio Boblou Gorsou. Un seul club, Sporting Club, alors, vous savez bien que tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait est éminemment politique. Même ne pas avoir en apparence de propos politiques, détecteur de subtilité, il s'enflamme à des niveaux de flamme rarement égalés. Bref, on peut parler de politique et avoir un engagement zéro. On peut en apparence ne pas en parler et être éminemment politique. Et oui, mon petit pote, la putain t'es mort. Bref, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Mais ça m'énerve autant, vous savez, que les gens qui donnent à manger aux oiseaux. qu'est-ce qu'ils ont, ces gens ? C'est-à-dire, ils sont possédés par qui ? C'est pas une évidence qu'il faut pas le faire. Putain, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un oiseau. On n'a jamais eu des oiseaux domestiques. Le film de Hitchcock, Les oiseaux, c'est un film d'angoisse. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Moi, une fois à Londres, j'ai été obligé de contourner des endroits parce qu'une personne devant moi à St. James Park, parce qu'il se trouve que dans sa vie, elle n'a pas d'amis et que la vie est difficile. Cette personne, donc, a décidé de se rapprocher des oiseaux et pour ce faire, de leur donner à manger, des oies, des cygnes. D'ailleurs, en parlant de Londres, j'étais à une comédie musicale. Comme vous le savez, j'adore ce genre, j'adore ça. C'était Moulin Rouge et le personnage principal, c'est drôle, parce qu'il ressemblait à Bruno Pecky. C'est un de nos collègues de la bande. C'est rigolo, non ? D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'empêchait de vraiment rentrer dans le spectacle parce que c'était un Bruno Pecky, mais avec une taille adulte et du talent.
Je plaisante.
Il avait une très belle voix, un bel organe. Mais peut-être que Bruno aussi, il a un bel organe. Bruno, si tu nous entends, hein, la prochaine fois à l'occasion, nous montreras-tu parce que la vie est folle. Bel organe. Bref, j'étais assis confortablement quand tout à coup, je remarque que mon voisin de gauche ne me laissait pas beaucoup le choix pour mes coudes. Et ça aussi, ça m'énerve. Il me vante alors une réflexion brillante. Je les accumule. Ça équilibre avec le désert intellectuel qu'a l'émission particulièrement ce matin. À qui appartient l'accoudoir ? Dans une salle de spectacle ? Dans un train ? Dans un métro ? Peut-on faire un pacte ? Doit-on les partager ? Faut-il que ce soit tacite ? Merci Sabrina. Jusqu'où pourrait-on aller pour un accoudoir ? Peut-on s'engueuler ? Serait-ce trop d'avoir comme conversation de bureau le lendemain ? Ça va Jean-Philippe ? Eh bien moi, pas trop. Figure-toi qu'hier, j'ai tondu quelqu'un pour une histoire d'accoudoir. On rigole. Pas tant que ça au final, mais le temps, lui, ne rigole pas. Et file à une vitesse. Oui, je vais rendre l'antenne. Mais au moment de la rendre, je me rends compte que finalement, peut-être que le partage de l'accoudoir, c'est finalement très politique. Car il pose la question du vivre ensemble, de l'équité et de l'égalité, voire de la lutte des classes. Car dans un avion, les accoudoirs des premières classes se partagent plus facilement que ceux de la classe éco. Bref, si je me fais virer, vous savez quoi ? J'irai pas sur Nova, j'irai pas sur Rire et Chanson, jamais sur Chéri FM. J'irai sur RCFM, Radio Corse Frequenza Amore, avec Marie Bronzini de Carafe, la cousine de Pedro Marie. Je m'appelle Julien Santini, merci de m'avoir écouté.
Et il m'a épuisé.
Ah, je suis fatigué pour lui.
Très drôle. Épuisant. Mais sur scène, tous les samedis à 19h à la Gaîté Montparnasse pour son formidable spectacle, Mon organe sur l'accoudoir.
C'est mieux ça.
C'est beau.
Ah, c'est beau.
Mais oui, c'est bon. C'est très beau.
Ça, c'est la bande originale du film. Avec chaque fois une ambiance très particulière, bande originale faite spécialement
entre le western et le.
Ouais, c'est ça. Hein ah, on sent. Mais avec des arrangements très modernes et. Qui chante ?
C'est pas
vous ?
Je ne sais pas, c'est pas nous. Non, heureusement.
Non. Non. Mais ça fait partie de la BO, hein, on est d'accord.
Oui. C'est que des musicaux.
On va parler des héroïnes au cinéma, héroïnes qui sont nos invitées. Et tout à l'heure, Marie Casabonne, qui est journaliste, sera avec nous. Mais la musique dans vos vies, celle que vous écoutez, on va commencer par vous, Sabrina Ouazani. Dans les années 2000, vous écoutiez.
C'est Wallen, la reine Wallen.
Quand vous écoutez, vous voyez où
je me vois à Saint-Denis, je me vois à la Courneuve chez moi, au 4000, mes débuts. Je me vois fan de Wallen, cette immense artiste qui amène le R&B en France.
Et
mes débuts, mes premiers pas au cinéma avec mon casting pour l'Esquive.
L'Esquive et premier pas dans le cinéma qui vous mène à être nommé au César du meilleur espoir féminin. C'est quand même pas mal pour un premier déplacement, j'ai envie de dire. quelques anecdotes associées à ça, parce que tout d'un coup, ça fait en effet beaucoup, un nouveau monde, de nouvelles découvertes. Will Smith aussi, tiens.
Ouais, Will Smith, incroyable.
Ouais, c'est
Will Smith, en fait, l'année où on
Will
est
Smith
nommé,
au 4000
Will Smith à La Courneuve chez la maman.
C'est trop bon.
Ouais, c'est trop bien. Mais par contre, il a rencontré ma maman. Il lui a fait la bise. En fait, on s'est rencontrés à la cérémonie des Césars l'année qui a suivi, où l'esquive était nommée dans plusieurs catégories. Lui venait recevoir un César d'honneur, et je le croise, je vous jure, dans les couloirs, et je vous promets qu'il m'a dit I saw l'esquive. Je vous promets. Wow. J'ai vu l'esquive, il m'a dit you're the best, et j'étais là. Non, you're the best.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour enregistrer cette vidéo
tout en même temps? Incroyable. Et donc avec ma maman, il m'a présenté la sienne et je lui ai présenté la mienne.
Waouh.
Et ensuite il est venu plusieurs fois
mariage,
pour présenter
des
films. J'attends la dot.
Il vous a invité.
Il m'a invité à chacune des avant-premières ensuite qui a suivi pendant au moins 5 ans. Ouais.
Génial.
À Paris, ouais.
La classe.
Ouais, incroyable.
De votre côté, Oulaya Mamra, vous écoutiez. I'm still Jenny from the block. Bien sûr. Avec l'envie de danser immédiatement. Vous entendez deux notes et ça y est, ça bouge.
Ah ouais.
Et là, vous êtes où en 2000? Leïla, elle est où?
On parle d'une sœur et on la connaît, sa sœur qui tout d'un coup va contraindre toute la famille à venir assister au cours de théâtre, c'est ça? Il n'y avait personne, donc elle vous a, au début.
Exactement.
Elle vous a forcé, vous, votre frère,
oui,
à venir au cours.
Exactement, elle nous a forcé, elle n'avait pas d'élève.
Quelle différence d'âge entre vous?
On a 15 ans de différence.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il y a une vraie domination, entre guillemets, dans les décisions à ce moment-là.
Oui, clairement. Ouais. Et puis moi, en 2000.
2000, oui. C'est pas dur à calculer.
Ah bah non, j'ai 5 ans, quoi.
Ouais, vous êtes toute petite.
Donc je suis toute petite. Mais non, c'était les années. C'était pas à ce moment-là vraiment. Hein. C'était plus 2010, enfin 2005 même.
Ouais,
et du coup, bon, elle nous oblige. Et quand il y a des gens qui commencent à arriver au cours, tu vois, nous dit avec mon frère, bon, bah c'est bon maintenant, enfin, vous pouvez retourner. Et en fait, moi, je suis restée. Parce que j'ai trop aimé, en fait. Donc elle m'a.
Elle vous a donné le virus?
Elle m'a donné le virus.
Avec exactement. L'association Mille Visages, parce que ça, c'est un projet dont il faut parler.
Ouais. Oui. Mille Visages, elle a créé cet asso qui sert à démocratiser un peu tous les métiers du cinéma et qui permet à des jeunes issus de banlieue, mais aussi des gens issus de
milieux plus modestes.
Plus modestes. Ils n'ont
pas
ruralité,
les contacts dans le métier, en fait.
Ils n'ont pas des contacts, en fait. Et ça permet donc à moindre coût de participer à des stages, faire des courts-métrages, en tout cas, voilà. Et c'était mes premières expériences.
Oui. En 2010, Sabrina Ouazzani, vous écoutiez. Vous n'étiez pas la seule en même temps en ce moment-là.
Ouais, je crois qu'on était beaucoup, effectivement. Ouais. Quel génie.
Et là, il se passait quoi dans la vie de Sabrina à ce moment-là?
Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, film présenté au Festival de Cannes, tourné en grande partie dans un village marocain.
Oui, effectivement.
Une expérience un peu folle, puisque je crois que vous ne connaissiez personne en débarquant sur le tournage.
Non, je ne connais personne. J'ai Xavier Beauvois qui me propose ce rôle, donc quand même dans ce film qui raconte l'histoire des moines de Tibérine, qui est censé se passer en Algérie. Moi, j'ai toujours été passionnée d'histoire. Mon pays d'origine, l'Algérie, a toujours attisé ma curiosité. Et donc, tout d'un coup, j'avais toutes mes passions qui se réunissaient. L'histoire, l'Algérie, le cinéma. C'est Xavier Beauvois, immense réalisateur. Et donc, effectivement, j'étais la seule nana de ce film entourée de Lambert Wilson, Michael Lonsdale et plein d'autres acteurs.
Super film, super beau film. Oui.
Merci.
Qu'est-ce que l'on apprend à côtoyer d'autres acteurs? Est-ce qu'on les observe aussi? Est-ce qu'on leur demande des conseils? Ou au contraire, on se met dans son coin et...
Ouais, je pense que entre l'esquive et Des hommes et des dieux, j'avais tourné pas mal entre temps, mais j'avais aussi croisé pas mal d'acteurs ou d'actrices qui avaient la grosse tête et qui se la racontaient. Honnêtement, vraiment, on a l'impression ils ont ouvert une porte, ils se la racontent parce qu'ils ont ouvert une porte. Et donc, et là, tout d'un coup, j'étais en face d'acteurs immenses, de Lambert Wilson, qui était d'une humilité incommensurable et qui était très très inspirant. Donc non, il y avait une sorte de bienveillance et de douceur sur ce tournage qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a servi d'exemple aussi pour la suite.
Oulaya Amamra, vous, dans cette année 2010, vous écoutiez.
Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de
m'isoler. Désolé de quoi à l'époque?
Désolé de quoi? Je sais pas. C'était ma première.
Pas désolé d'avoir accompagné votre frère à un casting.
Exactement. Ouais. C'est un, je suis pas désolé du tout. J'étais. C'est tombé dessus complètement, première expérience au cinéma.
C'est lui qui devait faire une audition, en fait.
C'est ça, exactement, il devait faire une audition, je l'ai accompagné. En fait, la directrice de casting, celle qui fait
Elsa Pharaon,
complètement. Elsa Pharaon qui m'a prise en photo et qui m'a appelée, en fait, quelques mois après pour me dire il y a un casting. Et voilà, un peu.
Et c'est la fracture de
Alain Tasma.
Très bon film.
Complètement.
Ouais.
Mais lui, il a été pris aussi, votre frère, ou pas?
Non.
C'était pour un autre film en fait, non, c'était pour un autre film. Okay. Ah, sympa, je vais voler en fait.
Ça a pas marché pour lui en plus.
Si, il est comédien en plus. Il
est dans Le Monde est à nous.
Le Monde est à toi, de Gavras.
Mais pas de titre. Oh, ça valait le coup, mon intervention. Et dans lequel il est génialissime.
En 2017-2018, vous écoutiez Sabrina Ouazani.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid.
Elle vous touche ?
Ouais, elle me touche beaucoup. J'adore Eddie Depreto. J'adore le message qui est passé. À travers cette chanson, ouais, moi j'aime les textes, j'aime l'art des mots et je trouve que il les manie merveilleusement bien et donc ouais.
Et alors pardon pour cette question, et les mecs, vous les aimez plus sensibles ou fragiles ou au contraire les solides à épaules carrées?
J'ai besoin quand même de quelqu'un de solide, hein, regarde mon caractère quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un de solide en face de moi.
Il faut qu'il y ait du répondant.
Mais il faut qu'il y ait du répondant, mais moi j'aime en fait, c'est ce que disait Lisa, j'aime qu'il assume, qu'un homme puisse assumer sa part de féminité,
c'est
son énergie féminine.
C'est ce que fait Eddie Depreto, cette chanson.
Et c'est ce que j'aime. Ouais. Donc moi, j'aime les hommes qui pleurent, qui sont sensibles, qui n'ont pas peur de leurs émotions. Au contraire.
Il se passait quoi en 2017, Leïla?
Eh bien, on va manquer. Je suis hyper contente de parler de ce film, votre premier court-métrage, Sabrina, on avait adoré, on l'avait vu pour l'émission, dans le cadre des Talents Adami, présenté au Festival de Cannes. un super court-métrage que je vous invite à voir. Je ne sais pas si on peut le trouver en ligne ou on peut le découvrir.
C'est encore sur le net, ouais.
Oui, il me semble. Oui.
On va manquer, c'est une phrase, c'est un titre, mais c'est aussi une phrase qu'on a peut-être déjà tous entendu.
Ouais, c'est une phrase, effectivement, que. On a ma maman, quoi. On a toujours peur de manquer. J'ai grandi dans une famille avec des revenus très très modestes, effectivement, et donc toujours la peur de manquer, toujours l'envie de mettre un petit peu de côté pour pouvoir anticiper la suite. Et donc c'est un film qui parle de famille.
Puis on va manquer, c'est aussi une façon de faire déborder la table de plein de choses.
Exactement.
En imaginant qu'il y a une armée qui va débarquer alors qu'en fait il y a 4 personnes.
Tu sais, je me rappelle quand j'étais petite, une fois je suis allée voir ma mère, j'ai dit maman, est-ce que Fatoumata peut venir manger? Elle m'a regardée avec les yeux comme ça énervée. J'ai dit quoi? Non? Et elle m'a dit mais comment t'oses me poser quand il y a pour 3, il y a pour 5, il y a pour 10.
Il y a toujours trop.
Il y a toujours trop. On pose pas la question. Tout le monde est bienvenu quoi à la maison. Et donc même si on va manquer et qu'on a peur d'eux.
Et c'était un super film. Vous avez envie de continuer à réaliser?
Ouais. Je finis d'écrire mon long métrage que j'espère avoir bientôt l'occasion de réaliser. Et j'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Donc j'espère qu'on me donnera vite l'occasion de passer à nouveau derrière la caméra.
Ouais. Oulaya Amamra, dans l'année 2017-2018, vous écoutiez. When I get like this, I can't be around you. Ariana, cause I got into things that I won't do. Sur le tournage, c'est elle qui faisait la DJette ou pas?
Ouais, c'est pas mal la DJette avec Déborah aussi. Très bonne DJette. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on a fait des bonnes séances de danse. On a fait d'ailleurs aussi une séance de danse où on a cherché notre danse d'homme.
Parce que
nous, on était là, on se prenait pour Rihanna. Et à un moment, Oudé nous a dit calmez-vous tous, en fait. Vous êtes plus des hommes, trouvez votre danse.
Ouais, Will Smith. Il faut danser à la Will Smith.
Voilà, vous ne savez pas forcément danser. Votre danse est trop moderne. Les jambes, un peu plus d'air entre les jambes. Là, c'est parti.
Encore.
Donc, on avait à la fois des moments où on se détendait avec de la musique. Et des moments où on continue de chercher nos hommes.
Et cette année, vous êtes Dounia dans le film Divine, réalisé donc par Ouda Benyamina, qui ce rôle vous vaut le César du meilleur espoir féminin. Et quand on demande aux acteurs ici et aux actrices si un rôle peut leur faire perdre la tête ou en tout cas imprimer quelque chose de très très fort, vous avez raconté à plusieurs reprises que Dounia et cette forme d'insolence de ce personnage vous avez un peu contaminé.
Complètement, complètement perdu dans le personnage. J'étais plus moi-même. Ma mère, elle en a voulu à ma sœur de lui dire rends-moi ma fille presque parce que c'est vrai, hein, c'est fou hein, ce que ça peut faire. J'étais en identification, j'étais devenue, je suis passée de la très bonne, enfin la bonne élève en tout cas, sage et qui n'a rien à se reprocher à l'élève qu'on vire.
Fou.
Son collège. Ouais, fou. J'étais devenue insolente. Ouais. Je réponds aux profs.
Et comment on sort alors du costume?
Comment on sort? J'avoue, le conservatoire.
Vous vous en virez, du coup.
Non, le conservatoire, ça m'a aidé à apprendre que c'était un métier, que c'était une technique.
Ouais.
Et que, pour pouvoir tout jouer, il faut savoir aussi mettre un peu de distance.
Et on peut être le personnage et pas non plus dans la vie. Mais moi, j'avais en fait le truc de Divine. Pourquoi aussi je suis devenue aussi autant le personnage, c'est que j'avais besoin de convaincre ma sœur que oui, j'étais le personnage. Mmh. J'étais si loin d'elle, je faisais de la danse classique et tout ça. Enfin, j'étais pas. Elle y croyait pas. Il fallait que je la convainc. Donc
on va continuer de parler de Toutes pour une. Il fallait également convaincre, décidément, quel boulot. Ouda Benyamina qui réalise ce film. On en parle jusqu'à midi et demi. Marie Casabonne nous a rejoint. Bonjour et merci d'être présente à ce micro. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Journaliste, critique cinéma, responsable éditorial de la plateforme VOD Univers Ciné. On parle de films d'action et on parle de films d'action au féminin. C'est un genre dans le genre. C'est rare des héroïnes en mouvement ou quelles sont les plus connues?
C'est assez rare. On va dire que peut-être la plus connue historiquement, c'est Hélène Ripley dans Alien, que tout le monde a vu, ou en tout cas tout le monde a l'image de
Sigourney Weaver,
qui joue ce rôle. Mais par
c'est
exemple.
Marrant, moi, j'avais Kill Bill comme film d'action féminin.
Beaucoup plus récent qu'il
Je suis d'accord,
c'est
oui,
les années 2000.
Mais comme plus marquant. Mais c'est, tu le mets dans le film d'action, Thelma
Louise? Moi non.
Ah oui, si, moi. Oui.
Ah ouais?
Moi, c'est une histoire d'amour, moi,
Thelma Louise. Moi aussi,
Je sais pas, c'est bizarre,
Non, mais Sarah Connor.
Donc Sigourney Weaver, quoi.
Ouais, voilà, on a Alien. Sigourney Weaver dans Alien. Mais par exemple, il faut se rappeler que son personnage, à la base, de Hélène Ripley, était juste Ripley au scénario. C'était écrit pour être un personnage masculin. Oui. Et c'est Ridley Scott, au moment du tournage, qui a décidé d'en faire un personnage féminin. Donc je pense que c'est aussi
Sans changer, entre guillemets, le parcours du personnage.
Il a changé le prénom. Enfin, il a rajouté un prénom.
Donc il n'a pas féminisé les situations et les scènes, mais il a mis une femme dans...
Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a cette image de l'héroïne un peu badass. Ouais. Qui du coup se réapproprie des caractéristiques codées comme masculines et qu'on a ce côté des héroïnes féminines mais qui n'ont qu'un prénom féminin, qu'un physique à peu près féminin mais qui se comportent en fait comme des hommes à l'écran. Donc c'est assez intéressant d'interroger ces codes.
Et pourquoi c'est si rare parce que quand on cherche, on tombe tous d'accord sur Alien, Kill Bill, peut-être Drôle de Dame qui était une série télé avant de devenir un film, mais il n'y en a pas tant que ça quand même.
Je pense que un petit peu comme la société de manière général, le cinéma, il est pensé par des hommes et pour des hommes. Donc, du coup, on a principalement des personnages masculins. Mais au-delà du cinéma d'action, on a souvent des personnages masculins importants et des femmes qui étaient des personnages secondaires, donc des intérêts amoureux, des mamans, des sœurs, des femmes, mais qui n'étaient pas, moteurs de l'action.
Tarantino, Almodovar mettent
les femmes à l'honneur.
Bien sûr, mais je parle vraiment d'une tradition historique et les personnages féminins étaient peut-être plus des faire-valoir ou alors carrément des victimes. Donc on a un renversement qui arrive évidemment encore heureux aujourd'hui et qui commence dès les années fin des années 70 avec Hélène Ripley. Mais je pense que c'est aussi le fait que les producteurs souvent n'ont pas confiance dans un film qui serait mené uniquement par des rôles féminins, mais même au-delà des films d'action. En fait, il y a très peu de comédies dont les premiers rôles sont féminins. Il y en a enfin ces dernières années, mais c'est pas quelque chose auquel les Alors, producteurs font confiance.
Qui de l'œuf et de la poule? Est-ce que les producteurs ne font pas confiance?
Éternel débat, j'espère que vous avez 4 heures.
Non, mais vrai. Est-ce que les producteurs ne font pas confiance parce que ça marche moins bien, entre guillemets, et que le public, peut-être public très féminin, cherche à avoir des rôles masculins à l'écran? Est-ce qu'il y a eu des tentatives et finalement on s'est dit on va pas y aller? Demi Moore a été aussi très présente en héroïne et physique et d'action.
Et justement, quand il y a ces films-là, on en parle comme des exceptions, en fait. Donc, tant que ces films-là, ils restent comme des exceptions, on peut pas dire si sur la longueur ça va marcher. Parce
Vous êtes bien placé pour savoir que les producteurs américains font ce qui marche, qui rapporte.
Évidemment. Donc. Et aussi, ces films-là, forcément, ils marchent pas parce qu'il y en a peu et qu'on a un public masculin. Ouais. Je pense qu'en fait, un public féminin, il y a beaucoup de femmes autour de la table aujourd'hui. Nous, on a appris, je pense, à s'identifier depuis toute petite à des personnages masculins parce qu'en fait, on avait que ça, grosso modo, comme personnage intéressant. Ce que le public masculin n'a pas eu à faire, puisqu'il s'est toujours vu représenté au cinéma. Donc après, c'est là que la question de la représentation est importante, et que un certain public plutôt masculin et blanc qui s'est toujours vu représenté va nous dire que la représentation n'est pas importante, mais dès que ces gens-là ne se voient plus représentés à l'écran, là tout de suite la représentation, elle est importante.
C'est un scandale.
Je pense que Daniel est outré quand il voit une petite sirène noire, par exemple, ou des elfes noirs dans
c'est
la série.
Ça existe.
Quelle était la première héroïne du cinéma?
Alors ça, c'est très compliqué aussi. On a, bah, je parlais d'Hélène Ripley un peu avant ça. Dans, on a Pam Grier, l'actrice dans tous les films de Blaxploitation des années 70, qui a joué pas mal de rôles. Mais c'est
joué dans le Tarantino aussi.
Voilà, que Tarantino a remis au goût du jour. Parce qu'on en parlait aussi avec Kill Bill. Tarantino, ce qu'il fait, c'est toujours reprendre des choses qui ont existé et bah, les faire découvrir peut-être à un public plus jeune. Moi, j'ai découvert les films de Tarantino avant de découvrir les films dont ils étaient inspirés.
Mais quand on voit par exemple une série comme Cat's Eyes à la télé qui a cartonné sur TF1, on se dit peut-être que les mentalités évoluent justement.
Et, évidemment. Et puis même dans les films récents, il y a quand même toute la saga des Hunger Games avec Jennifer Lawrence qui porte les films. Alors c'est peut-être un peu plus adolescent et tout, mais c'est quand même des films d'action qui sont portés par un premier rôle féminin. Voilà, il y a quand même des choses, même à l'époque à la télé.
Xena la guerrière.
Xena, il y avait aussi Buffy. Voilà, il y a eu tout un paquet d'héroïnes.
Finalement, il y en a plein.
Mais en France, il y en a assez. On parle d'ailleurs, mais enfin.
Peut-être trop, là.
Voilà, on y vient.
Ouais, en France, c'est pas fou.
Il n'y avait pas eu le projet de remplacer James Bond par.
Il y a le miel et les abeilles.
Évidemment, il y a eu cette idée de peut-être qu'un agent 007 pourrait être une femme, et là, c'est devenu un scandale.
Bien sûr.
Ouais, c'est ça.
Vous avez.
Déjà, il faut qu'il soit noir, et après, éventuellement, que ça devienne une femme, mais c'est pas gagné.
Vous avez signé Slasher, attention, on va couper, paru aux éditions Glénat, et vous venez de publier dans les bureaux de The Office, l'humain derrière l'humour, chez Third Edition. Merci Marie Casabonne d'être venue à ce micro. Voici Laura Domange. Ça va, Laura?
Ouais, super, écoutez. Non, c'est galère.
Avant toute chose, j'aimerais vous dire à vous tous autour de la table et à tous nos auditeurs que vous êtes des personnes formidables. Vous faites de votre mieux, je vous aime. Et oui, mes antidépresseurs semblent enfin efficaces. Cette semaine, j'ai appris l'existence de la péniaphobie. Vous savez ce que c'est, la péniaphobie?
Non, explique. Crayon?
Alors écoutez, c'est pas la peur des pénis, parce que ça s'appelle le postpartum. Non. Vous savez pas, écoutez, pour tout ce qui est sorti de film, musique, littérature, ça cause, mais pour tout ce qui est névrose autour de la table, il n'y a plus personne, à part moi et Lisa. Alors, et Julien et Tanguy. Alors, la péniaphobie, c'est la terreur excessive de tomber dans la précarité. C'est donc une phobie de riche. T'as pas le luxe d'avoir peur de tomber quand t'es déjà au sol. Je veux dire, toutes les phobies sont des phobies de riche un peu. Tu peux pas te permettre d'être claustrophobe quand t'habites dans un 6 mètres carrés. Non, mais c'est fou le nombre de phobies qu'il y a. Je veux dire, c'est comme les humoristes sur Inter, toutes les semaines, ils en poussent des nouvelles. Désormais, il y a plus d'humoristes que d'auditeurs et pourtant, c'est la radio la plus écoutée de France. Donc bon, j'ai l'impression que toute crainte mérite une déclinaison en phobie maintenant. Parfois, je me demande pourquoi on a inventé un mot compliqué et scientifique pour une peur normale. Par exemple, les personnes qui souffrent de diocophobie ont peur d'être pourchassées. Wow, quelle peur irrationnelle! C'est vrai que moi, quand j'apprends que je vais être poursuivi ou même juste suivi sans le pour, je me dis, quelle agréable nouvelle! Et parfois, je trouve qu'on a inventé des mots à des peurs d'une précision chirurgicale. C'est vrai, bientôt, on va entendre « Moi, j'ai une peur bleue des baskets à strass. » Ah bon? Eh bien, tu souffres de nagiphobie. Moi, comme je suis valeur actuelle phobe, ce week-end, j'ai lu Le Parisien qui titrait La péniaphobie, cette peur de ne pas réussir sa vie qui touche de plus en plus les moins de 25 ans. Franchement, dans un monde qui propose un avenir sur une planète sans ressources où l'être humain va être remplacé par des IA, avoir peur de ne pas réussir sa vie, mais c'est d'un égoïsme. Moi là, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de rater, c'est la vie en général. Non, plus sérieusement les jeunes, faut arrêter de viser la lune comme dirait Mel Bent, parce qu'après Elon Musk, il le fait et sa fusée elle explose et il y a des petits bouts qui volent dans l'atmosphère et qui vont nous tomber dessus, même qu'il a fait un salut nazi pendant l'investiture de Trump, et on va tous crever. Pardon, excusez-moi, c'est très difficile de trouver le bon dosage du Prozac. Donc, je pense être la bonne personne pour rassurer les étudiants. Cette peur passe, j'en suis la preuve. J'ai 37 ans et ma vie, j'ai la chance de l'avoir ratée. Bien sûr, mais bien évidemment. Si j'avais réussi, je serais pas là autour de cette table à essayer de vous divertir. Si j'avais réussi, je serais rentrée à France Inter plus tôt lorsqu'il n'y avait qu'une poignée d'élite. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais réussi ma vie, je m'appellerais Marina Rollman. Voilà, la fille discrète mais impactante qui laisse une trace partout où elle passe. Oui, Marina Rollman est une perte blanche. Et c'est précisément le genre de blague pas chic que Marina Rollman ne fait ferai jamais. C'est pour ça qu'elle est partie au riolet de classe et que moi, je suis encore avec vous. Plus sérieusement, il faut arrêter avec ce concept de réussir sa vie. Quand on est comédien, réussir sa vie, c'est avoir une belle carrière, faire rire les gens, jouer dans des films, devenir célèbre, être reconnu par ses pairs comme Robin Williams, qui s'est suicidé. Donc voilà, c'est pas génial, forcément, de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est trop large. La définition évolue avec l'âge en plus. À 5 ans, si t'as une maison en chocolat et des cartes Pokémon, c'est le goal suprême. Drop the mic, the world is yours. T'es le Tony Montana des bacs à sable. À 40 ans, la société pense que les femmes qui n'ont pas d'enfants ont raté la leur, mais celles qui en ont 16, qui en ont à 16, aussi. Donc, faudrait savoir. Je veux dire, moi, à mon âge, si j'ai pris une douche dans la journée, que je me couche à 20h et que mes draps sont pas trop sales, je me dis que je m'en suis pas trop mal sortie, finalement. En conclusion, les péniaphobes, si vous voulez être sûr de réussir, ayez pour objectif de rater. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez vraiment atteint votre but. Voilà. Blague à part, vous êtes des personnes formidables. Vous faites de votre mieux. Je vous aime. Et n'oubliez pas le Prozac. Les paroles. Ces paroles.
Ça ne fait pas peur.
Merci.
Oui. Sur la route et sur les pistes, elle sera au Jai le 30 du mois de janvier, c'est dans le 74, et le 18 février à Paris au théâtre de l'Œuvre.
Tanguy Passereau, de quoi vas-tu nous parler dans la dernière demi-heure ?
Je vous parlais de X, hier j'y étais, j'ai vu mes abonnés partir un à un. Vous, Nagui, vous êtes parti, mais il y avait aussi des gens super qui se sont partis.
Moi, j'y ai jamais été.
Sabrina Ouazani, Oulaya Amamra, Déborah Lokoumouena et Daphné Patakès sont à l'affiche de ce film qui sortira demain. J'ai pas arrêté de dire aujourd'hui, non, on est mardi. Ouais. C'est demain qu'il est au cinéma. Ouais. Toutes pour une, on en parle jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Leïla Kaddou Boudadi, Lisa Delmoitié, Laura Demange, bonjour. Julien Tanti, de Laf, Tanguy Passereau, Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités, Oulaya Amamra et Sabrina Ouazani.
Ouais, bravo. Bravo.
Bande originale.
Merci. Demain au cinéma dans un film d'Ouda Benyamina qui s'appelle Toutes pour une avec Déborah Lokoumouena et Daphné Patakia, les quatre mousquetaires donc réunis par Ouda Benyamina. Comment elle vous a demandé de parler du film ? D'abord, est-ce qu'il y a une préparation à la promo en disant surtout insister sur le fait que ce soit un film d'action ? Un film d'humour, un film d'amitié, parce que Divine, y avait aussi cette l'importance de l'amitié, et on sent que c'est l'un des éléments qui compte aussi dans les messages ou les valeurs qu'elle veut porter en tout cas.
Bah non, on n'a pas, franchement, on n'a pas eu d'indication aucunement. Non, en fait, je pense que naturellement, en fait, avoir passé autant de temps ensemble et d'avoir créé ces personnages et cette bande a fait qu'en fait, ça nous a soudés réellement et qu'il y a une réelle amitié. Donc nous-mêmes, on a éprouvé ce.
Ok.
Des mousquetaires en fait, en vrai.
Vrai. Et, qu'est-ce qu'il en ressort ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre lorsque quelqu'un sort de la salle, justement ?
Honnêtement...
Oui, s'il vous plaît, pour une fois, honnêtement, dites-moi un truc.
Très honnêtement, et pas, sans mentir, on va dire.
Qu'on est beau gosse, qu'on est beau gosse, déjà.
Déjà.
Non, mais vous êtes
en mec.
Ouais, ça marche.
Non, mais moi, je pense qu'il y a...
Ah, c'est vrai que c'est crédible. Ouais.
Moi, en tout cas, ça m'a réconcilié avec la question du genre et de... En fait, de se dire qu'en fait, on est des humains et peu importe enfin, qui on
quel que
est,
soit le sexe
quel que
l'on
soit
est.
Le sexe qu'on est, qui on est, en fait, c'est ce que disait Sabrina, c'est plus une question d'identité, et c'est plus, finalement, on tombe amoureux de quoi, d'un corps, je trouve qu'Ouda pose des questions, tu vois, qui sont pas.
C'est une question d'identité et du regard des autres
oui,
aussi.
Oui, c'est ça.
Le poids du regard des autres de s'en libérer.
Oui.
Aussi.
Et la loyauté aussi, je trouve, en amitié, enfin, moi en tout cas, et on en a déjà parlé longuement, on la partage avec Ouda. Enfin, il y a un truc aussi où c'est à la vie, à la mort, moi, avec mes amis. Donc, on est des mousquetaires, en fait.
Ouais. Et quand je disais qu'il y avait de l'humour, il y avait évidemment il y a beaucoup de cascades, l'humour presque Déborah par moment se bat un peu à la Astérix et Obélix, c'est-à-dire qu'elle en prend deux pour qu'ils se pour les cogner tête l'une contre l'autre, c'est extrêmement drôle. Daphné Patakia joue plus la malice et la fragilité.
Ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de c'est un peu le leader de la bande et puis elle lui
a des doutes sur les autres.
Et puis un regard et un amour particulier pour la reine, donc elle c'est un fonceur, il a envie d'y aller et puis il nous mène avec lui et nous par amitié on le suit finalement là où à des endroits où qu'on trouve beaucoup trop risqué parfois.
Georgina
Amoros, ouais,
Amoros joue la reine. Cassé, monté,
Klein.
Klein pour le cardinal de Richelieu.
Et Nemo Schiffman. Nemo Schiffman aussi.
Trop bien de le revoir.
Le roi Louis XIII. Et puis vous pouvez le regarder comme une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
Ou pour passer un bon moment.
Exactement, absolument. Et c'est super bien réalisé et bien interprété. Voici, et ça sera demain au cinéma, voici Tanguy Pastureau.
Hier après la radio, je suis allé dans ce bar dégueulasse, le Fornic Club à Pigalle. C'est tenu par des dealers, ils font des pizzas à la burrata. On ouvre la burrata, dedans il y a de la coke. Et là derrière le bar, qui je vois, Daniel Evenou à poil. Mais non, je rigole, j'ai rien vécu de tout ça. Hein, j'ai la vie d'un janséniste trop timide. Après la radio, je suis rentré chez moi, comme un ermite, pour travailler à mes chroniques. Le temps de dire au revoir à Daniel, qui ne m'a pas répondu. À Oldelaf, qui a fait un jeu de mots dont il a le secret, mais j'étais dans l'ascenseur, donc j'ai pas pu me défenestrer. Et j'étais déjà parti, direction la Pastu Mansion. Non, certes pompeux pour un F3 avec balcon de 4 mètres carrés. 12h56, j'étais chez moi, j'ai attrapé la zapette. Je voulais des infos. La libération des otages à Gaza, l'investiture de Trump, tout va tellement vite en ce moment. Et là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis le JT TF1. Premier sujet, je vous assure, c'est véridique, c'était sur l'électricité statique qui est plus forte en hiver. Il y avait un micro-trottoir avec des gens tous les cheveux en l'air, comme si avant d'entrer au Hellfest, on les avait appareillés chez Audica. Le 13h TF1, le jour de l'apocalypse, ils vont partir sur le retour à la mode du sac banane. Les mecs sont magiques. Donc j'ai éteint la télé, parce que moi je voulais voir des images de Trump, parce que c'est devenu le seul moyen d'entendre les Village People, maintenant que Nostalgie s'est mise sur Tropic de Muriel Dac. Et vous savez que moi, j'adore être seul. Je suis donc allé sur X, puisque la moitié des gens que je suivais se sont barrés, donc c'est très calme. Ça ressemble au Perche le lundi, quand les Parisiens sont rentrés. Nagui, vous avez quitté X, tant mieux, je vous vois moins. Ce qui rend les fois où on se retrouve beaucoup plus intense, oui. Ça vient de là, le fait que ce matin, en vous voyant, j'ai lancé au loin mon pantalon avant de me jeter sur vous. On se croirait revenu au bon temps de la télé des années 90, vous m'avez dit tendrement. Sandrine Rousseau avait dit qu'elle quitterait X, elle l'a fait. C'était prévu avec Marine Tondelier qui, elle, est restée. Ça fait comme à la piscine quand on était gosse, qu'on disait à un copain à trois on saute, hein, et qu'on le regardait faire un plat comme un con alors qu'on restait sur le bord. Hier, plein de monde a quitté X. Grégory Doucet, maire de Lyon, Cécile Duflot, la ville de Bordeaux, le Nouvel Obs, Elton John, le mémorial de Caen. À terme, il va plus rester qu'Elon Musk, Sarah Knafo, Marine Tondelier et moi. Si ça se termine en date, on va partir sur un 2 contre 2 au baby-foot. Moi, je reste parce que j'étais là avant Elon Musk. Vous voyez Elon Musk, hein, c'est ce monsieur dont on sait plus trop s'il fait des saluts nazis ou s'il envoie des cœurs. Alors ouais. Que normalement, bon, les deux sont bien distincts. Hitler, il est jamais passé pour l'ours Paddington, je veux dire, c'était clair. Et mais il n'y a pas de raison que je parte. Mais hier, je voyais mon nombre d'abonnés chuter de 23, ils sont passés à 7. Et qui je perds? Les gens hostiles à Trump et Musk, si bien qu'il ne va plus me rester que des fans des deux gugus, puisque voilà. Marine Tondelier ne me suit pas. Elle a une veste verte propre à acheter par moi et 4 interviews à faire, mais madame n'a pas le temps de s'abonner. Et là, j'ai vu les départs se succéder. Yannick Jadot est parti. Il en a profité pour dire qu'il était candidat au municipal à Paris. Il a déclaré aux Parisiens « J'aime Paris », ce qui est un bon début. Hein, on a rarement vu un candidat débuter une campagne en disant « Je vais vous dire, râle cul de cette ville de naze hein. ». Moi, celui qui dirait ça, je voterai pour lui, parce que j'adore l'honnêteté. Mais les autres gens ont besoin de croire en quelque chose. À un moment, je réalise que la ville du Mans a fermé son compte X. Je me dis « Rien à foutre du Mans ». Puis que la ville de Poitiers a fait pareil. Je me dis « Rien à foutre de Poitiers », avant de me souvenir que j'y serai en spectacle à l'automne 2025. Et c'est vrai que j'adore Poitiers. Ah, Poitiers, c'est rue, c'est genre... Poitiers, quoi. Oui, hier, devant mes yeux embués, c'est un réseau social qui mourait en direct. Greenpeace est parti, Emmaüs aussi, l'association qui vend des objets auxquels l'abbé Pierre a tous fait l'amour un jour. J'apprends que l'école polytechnique quitte X. Là, que je vous cache pas que je me suis pas senti très concerné. Ça aurait été le BTS Force de Vente de Dijon. Je me serais plus projeté. Je regarde mon nombre de followers. Ils sont désormais 3. 2 de ma famille et 1 qui a cru que j'étais Michel Pastoureau, l'historien. 3 qui attend que je parle des Templiers et que je fais des vannes sur les Lacadours. Il est proche de l'AVC. C'est là qu'au même moment où à Washington, Donald Trump arrivait à la Maison Blanche, qui est restée blanche, hein, même à la grande époque des émissions de Décode M6, puisque Valérie Damido n'a jamais passé la sécurité. C'est là que j'ai appris le départ du X de la région Bretagne. Cette fière contrée, au moins giflée par le crachin et qui font caca dans le jardin de Miossec, a disparu de X. Et moi qui ai passé du temps en Bretagne, ça m'a attristé. Je me suis dit, plus de Bretagne, plus de Nagui, plus de Daniel Morin. Depuis 2018, il n'a pas tweeté. Si ça se trouve, il avait vu venir le truc il y a 7 ans. C'est un devin, l'équivalent du mage dans un Johan et Pierre-Louis. Et nous, on le traite comme un chien à recouvrir son déambulateur d'huile de vidange pour qu'il se pète la gueule. Tout ça pour le filmer et alimenter ce compte Instagram malsain où par jour,
il y a trois photos de lui renversées sur le dos au milieu de la moquette. Et je me suis demandé, mais que va devenir X pour moi si tous les comptes que j'aimais bien ferment? J'ai investi du temps, moi, dans ces relations-là. C'est pas pour me faire ghoster par West France au motif qu'il y a des contenus pro-Trump dessus. Ce qui est faux, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. J'en parlais à mon coiffeur à qui j'ai demandé, faites-moi comme Donald, avant d'ajouter, de toute façon, rien de ce que je lis ne peut m'influencer. Alors, hier, je suis parti sur Blue Sky. Ça ressemble au Twitter des débuts. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. J'ai 75 abonnés. Je redémarre de zéro. Puis en 2026, Jordan Bardella rachètera peut-être Blue Sky et les gens partiront ailleurs et ainsi de suite, puisque nous sommes des êtres égarés et dépendants qui suivons les lubies des milliardaires juste pour exister, mais si peu, si peu. En attendant, je reste sur X puisque ça va, j'étais là avant. Merci.
Merci. Tanguy Passero, t'as combien? Parce que moi aussi je suis allé sur Blue Sky. T'as combien d'abonnés sur Blue Sky?
Pas d'humiliation, Nagui, on avait dit pas d'humiliation.
Mais je connais pas Blue Sky.
Je suis la loose.
Moi non plus,
c'est Twitter du début, en fait. C'est...
Ah bon?
Ouais, mais ouais, avec modération, justement, où tu peux pas tomber sur des trucs extrêmes.
Blue Sky, c'est toujours avec modération.
Qui est propriétaire?
J'ai 10 abonnés. Super. Tu m'humilies. Il est où?
C'est annulé?
Ah bon?
Non, c'est pour me venger de ce petit salaud qui le 13 février il sera à Besançon pour son spectacle médiocre et le 21 février il remettra ça à Toulon. Voilà.
Jaloux va. Merci Tanguy Pastureau. Le cinéma, c'est demain avec Toutes pour Une et nos invités dans ce film de Ouda Benyamina. D'autres événements, pardon, culturels.
On cherche un comédien qui va interpréter Vladimir Poutine, ou plutôt un membre prometteur du FSB.
Ah oui, c'est Jude Law.
Oula.
Non.
Absolument.
Oh, mais oh, mince, mince.
Alors, Jude Law.
En permanence. Toujours lui.
Non, c'est vrai que physiquement, ouais.
Ouais, Jude Law va interpréter Vladimir Poutine. Jeune. Alors, tout ça est tiré du livre dont on a beaucoup parlé, Le Mage du Kremlin. Mm. C'est Olivier Assayas qui va réaliser ce film. Il co-signe le scénario avec Emmanuel Carrère. Et dans ce livre, dans les années 90, au lendemain de la chute de l'URSS, on a un membre prometteur du FSB, ex-KGB, qui va progressivement gagner un peu du terrain. L'histoire, on la connaît, ou en tout cas, on peut la reconnaître. Jude Law qui se colle à ce personnage, qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas encore commencé à travailler, mais qu'il est très inquiet parce que comment se saisir d'un tel personnage, de cette histoire à la fois tirée d'un livre et puis de toute l'imagerie dont on bénéficie tous, puisque nous voyons tous à quoi ressemble Vladimir Poutine et par certaines de ses actions aussi ce qu'on pourrait éventuellement projeter sur lui. Alors il est habitué aux performances un peu incroyables, hein, Jude Law. Récemment, il était dans Le Jeu de la Reine où il incarnait, je sais pas, ce roi Henri VIII, je sais pas si vous l'avez vu, gonflé, énorme. Il m'a fallu, je pense, 40 minutes de film pour comprendre que c'est Jude Law.
Pareil.
Moi, je me suis dit, je suis pas venue voir un film avec Jude Law, mais il intervient toujours pas, c'est bizarre. Jude Law va se coller donc à cette performance. Je sais pas encore quand le film va sortir, mais ça devrait être très digne d'intérêt avec Olivier Assayas à la réalisation. Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice dont la performance vous a particulièrement bluffé récemment, ou moins récemment en tout cas, et pour vous c'est quelque chose qui vous apparaît comme ça tout de suite?
Moi, je pense à Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour.
Ouais.
Que j'ai trouvé incroyable tard. C'est un acteur formidable. On l'avait découvert dans Un Prophète.
Oui.
Puis il a continué son grand, grand bout de chemin.
Énorme chemin, oui.
Et étant une grande femme de Charles Aznavour, j'étais curieuse de voir sa performance et de voir comment ça marchait. Il m'a bluffé.
Et ce travail fourni, ce chant, au-delà de la
cette
gestuelle et de l'interprétation, il y a.
Voilà, c'est un investissement fort. Et tard, il est de ces acteurs qui se donnent à fond, corps et âme. Et pour le coup,
qui pousse très loin
à l'écran,
ouais.
Quoi. C'est magnifique, quoi. J'ai hâte de le voir dans le prochain film de Julia de Courneau.
Oui. Ouais. Et vous, Laïa?
Et moi, alors j'ai été au cinéma il y a deux jours, j'ai vu le Baby Girl avec Nicole Kidman.
Oui.
Vous l'avez vu ou pas?
Non, enfin, non.
C'est bien.
Oh, incroyable.
Ouais.
C'est fou.
Racontez-nous, c'est quoi l'histoire?
Alors, c'est Nicole Kidman, qui est une bourgeoise qui est en couple avec... Antonio Banderas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, elle tombe. Enfin, il y a une histoire.
Ça s'est entendu, Sabrina. Ça s'est entendu.
Mais j'adore parce que Sabrina, elle commente, elle écoute, elle fait.
Elle fait
des bruitages.
On l'adore.
Et il y a une histoire d'amour, en tout cas, de désir et d'amour et de finalement d'adultère, si je peux spoiler, avec un mec de 20 ans.
Enfin, ouais.
Ah bah bravo.
Et en quoi sa performance est...
La Nicole Kidman, je trouve qu'elle a été d'une générosité. En fait, elle offre des choses d'elle, parce que c'est finalement... C'est quand même une femme, elle a son âge, mais elle joue de ça un peu comme Demi Moore, ce qu'elle a fait dans The Substance, tu vois. Là, on la voit, à un moment, elle se fait des piqûres. Elle donne, en fait. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des femmes... Enfin, moi, j'ai envie d'être actrice encore vieille. Oui, ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, j'ai envie d'être encore une actrice longtemps. Et il faut qu'il y ait des
ça fait rêver. Il y avait le film d'Anne Fontaine aussi, où il y avait des mamans avec chacun leur fils. Et...
Ah, avec les jeunes hommes.
Je sais plus comment ça s'appelle.
Avec Naomi Watts.
Ouais, c'est ça, oui. Ou pareil, il y avait une grosse différence d'âge entre. Avec les fils. Avec les fils, chacune de l'autre. Pardon, mais comme la triste nouvelle de Bertrand Blier est tombée tout à l'heure, est-ce qu'il y a un film auquel vous pensez et qui serait une forme d'hommage qu'on pourrait rendre à Bertrand Blier en disant qu'il y a un film qui vous a marqué?
Il y en a plein. Je suis plus calée sur Antonio Banderas, visiblement.
Est-ce que tenue de soirée, Les Valseuses,
Les Valseuses, c'est un des premiers films.
Merci, Lali. Les Valseuses,
ouais. Les Valseuses, incroyable.
Même si c'est extrêmement choquant et ça passerait plus aujourd'hui. Hein.
Non, ça n'existerait pas, ça ne serait pas possible là, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que je l'ai vu il y a déjà un bon moment. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, mais à la fois, je l'avais trouvé choquant et bouleversant.
C'est Isabelle Huppert qui est dans le train,
oui.
Et que nous recevrons jeudi.
Jeudi.
Et vous, Laïa, c'est...
Moi, je disais Buffet froid.
Merci la vie, peut-être, ou je sais pas, merci ou Beaupère, préparez vos mouchoirs, tenue de soirée, enfin il y en a tellement.
Tenue de soirée, c'est vrai, tenue de soirée.
On a une pensée émue en tout cas pour
Autre question, Laïla. On cherche une artiste qui a écrit une lettre à Rachida Dati. D'ailleurs, cette artiste a publié cette lettre sur son compte. Elle a décidé de refuser la Légion d'honneur et elle explique les raisons de cette décision assez radicale. Elle considère que la France est hypocrite. Qu'elle montre sa solidarité comme ça de façade, mais qu'en réalité elle ne prend pas
Blanche.
Des décisions cohérentes.
Blanche
elle
Gardin,
déjà ouais, Blanche, elle aurait pu, ouais.
Elle l'a déjà fait.
Elle l'a déjà fait. C'est une artiste.
La position de la France vis-à-vis de l'Iran.
Absolument.
Ouais.
Ah ouais. Godshift
Farhani. Mais non, c'est une auteure de BD et réalisatrice.
Marjane Satrapi.
Absolument, Marjane Satrapi.
Bandera, c'est plus facile.
En tout cas, c'est quand même Sabrina qui a shooté le nom d'abord. Marjane Satrapi.
Non, elle a shooté les lettres, pas le nom.
Ouais, c'est ça, c'est la belle prénom. Vous êtes dur.
Quatre à la suite.
Ils sont incroyables. Marjane Satrapi qui considère en effet que la France est hypocrite, qu'on peut comme ça dire. C'est scandaleux de ne pas soutenir ou de venir à la défense des femmes iraniennes et de sa jeunesse, mais à côté de ça, d'autoriser les oligarques iraniens à venir se promener tranquillement à Paris, à Saint-Tropez, à faire leur petit shopping. Et elle considère que cette distorsion, cet écart entre le discours et la réalité n'est pas supportable et qu'en ce sens, la Légion d'honneur ne l'intéresse pas. Position ferme, forte, Marjane Satrapi est une habituée du genre, elle ne mâche pas ses mots. Les récompenses, les honneurs de la République. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose
Vous avez déjà été décoré déjà?
Ouais.
Non, on n'a jamais été décoré. Ce qui m'interpelle, c'est que j'aimerais bien savoir qui a demandé à ce qu'elle ait la Légion d'honneur, parce que la Légion d'honneur ne nous est pas attribuée comme ça.
Il faut que quelqu'un le propose. C'est vrai.
Voilà, il faut que quelqu'un le demande ou le propose pour nous. Donc
après, c'est souvent ça peut être aussi des conseillers qui proposent une liste en fait à la ministre de la Culture.
Visiblement, les conseillers n'ont pas pensé à moi.
Ils ont eu tort.
Au conseiller, absolument. Vous n'avez jamais été honoré ainsi. Vous avez eu des récompenses cinématographiques, bien sûr.
Moi aussi, j'ai été décoré de la médaille de la Courneuve.
Alors, la plus belle?
Voilà, c'est la plus belle. Ouais. C'est la plus belle des récompenses.
Ouais, même petite Légion d'honneur.
Oh, ferait pas de mal.
Toutes pour une au cinéma demain et dans les projets. Alors, on a évoqué avec Sabrina Ouazani l'envie de réaliser, mais vous aussi, Oulaya, vous avez posé la question sur votre compte Insta.
Ouais,
vous avez fait une sorte de sondage. Est-ce que tu imagines réaliser un jour on vous pose la question et vous dites oui.
Oui. Franchement, j'aimerais beaucoup passer derrière la caméra. Là, je suis en train d'écrire en ce moment.
Un cours?
Mais il faut convaincre votre sœur ou pas?
Non, ça y est, s'il vous plaît.
Vous écrivez un court ou un long?
Non, j'écris un long avec Emma Benestan.
D'accord. Oui.
Voilà, qu'elle a fait Animal.
Animal, c'est Animal, super.
Et Fragile.
Fragile aussi. Oui.
Vous serez prochainement à l'affiche de La Maison des Femmes de Mélisa Godet.
Oui.
C'est ça, l'histoire d'un lieu unique en France qui se trouve. Alors, il y a plusieurs maisons de femmes. Il y en a une à Saint-Denis, il y en a à Marseille, il y en a un peu partout. Je ne suis pas sûr qu'elles soient d'ailleurs liées les unes aux autres, même si c'est le même nom.
Non, mais non. Enfin, elles sont.
Mais l'important, c'est ce qu'elles font en tout cas.
Si, c'est pareil, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Toutes les maisons des femmes, c'est.
Qui ont sauvé plus de 5000 femmes. Et on vous découvrira bientôt dans Liars Club. C'est un jeu.
Ouais.
Sur Prime, ça consiste en quoi?
Ah bon? Ça consiste à mentir.
Au courant, toi.
Il y a cinq duos de célébrités.
C'est qui ton duo?
Melha.
Ah bah oui. Melha. Ah génial, j'ai trop hâte de voir ça.
Melha Bedia, ouais.
Trop bien.
Alors en fait, on doit mentir.
Et il y a Kadeo, Kadmerad et Olivier Barou. Il y a Ahmed Silla avec Hakim Djemili, ouais. Freddy Gladieux et Anis Rally, et McFly et Carlito.
Ah, joli casting.
Pour essayer du casting. Ouais, on est un peu dans l'esprit de LOL, mais sauf que là, c'est un jeu où il faut voir si on dit la vérité ou si on ment.
Exactement, on doit raconter des histoires. J'aime bien l'idée, parce qu'on joue la comédie aussi. Et il faut raconter des histoires. Et sur les trois histoires, il y en a une de fausse, quoi. Enfin, il y en a une de vraie,
aussi,
pardon.
Ce jeu se pratique aussi à l'Assemblée nationale.
C'est ça.
Oui, exactement.
Et il y a Vampire sur Netflix.
Toujours dispo.
Toujours dispo.
Ah, ouais, toujours dispo.
Okay. Quant à vous, Les Jours Meilleurs, c'est le film d'Elsa Bennett et Hippolyte Dard que j'embrasse au passage. Vous serez aux côtés de Valérie Bonneton et Michel Larocque.
Oui. Un film qui parle de l'alcoolisme chez les femmes. L'alcoolisme, déjà, qui est un fléau.
Il y a trois femmes,
fléau,
hein, c'est ça.
Exactement, qui est un trio de femmes qui se retrouvent dans ce centre de désintox, qui vont essayer de s'en sortir. Et donc, effectivement, on parle de ce sujet si important, l'alcoolisme. Et l'alcoolisme au féminin, c'est encore autre chose, c'est encore un autre tabou. Mmh.
Et ça sortira le 23 avril. Oui. Et jusqu'à la mi-février, vous allez reprendre Le Songe d'une nuit d'été.
Oui, je joue au Théâtre de la Ville, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare.
Emmanuel,
mis en scène par Emmanuel de Marcimota. Ouais.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour les producteurs du film Toutes pour une qui ont été choqués du terrible aveu de nos deux invités quand elles ont reconnu qu'elles n'avaient rien préparé pour la promo. Rassurez-vous, les amis. Personne ne prépare la promo, jamais. C'est pour ça les questions de Nagui qui font toutes plus de 13 minutes. C'est pour meubler.
C'est pas drôle, Julien, c'est pas drôle.
Pardon, c'est nul.
Désolé pour Laïa et Sabrina qui ont découvert Julien Santini et son côté faillot avec sa femme, son côté incompétent en matière d'infos et de préparation d'émissions, son côté différent en termes physiques, son côté désespérant en termes d'humour. Alors, pour info, on va le vendre sur Le Bon Coin. Si vous êtes intéressé, on prend les tickets restaurants et même les timbres. Désolé pour tous ceux qui ont plongé dans l'enfer de la question existentielle de Julien Santini, à savoir, il est pour qui la coudoir? Alors, il n'y a pas de règle. Hein, en général, pour trancher, il est pour qui la coudoir? Je vous invite à réfléchir à cette phrase visionnaire de Michel Audiard, je cite, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Voilà, c'est la loi du plus fort. Si vous n'êtes pas content, levez-vous et fermez-la.
Merci mille fois. Demain, nous recevons Camille Rutherford, que vous allez retrouver également.
Oui, dans une série, effectivement, qui s'appelle Extra Lucide, réalisée par Bruno Merle.
Voilà,
oui,
bah, sera notre invité demain avec Charlie Hanson pour un film sur Diane Cinema.
Comment
a gâché ma vie. Exactement. Passez une bonne journée. Merci Sabrina, merci Oulaya. Et Dorothée Barba est là pour les carnets de campagne.
Bonjour les amis.
Salut.
Comment ça va?
Dis donc.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Aujourd'hui, dans les carnets, je vous parle de Clamecy, ville de 4000 habitants dans la Nièvre, qui organise bientôt un très gros concert solidaire. 9 heures de spectacle, des groupes dans tous les styles musicaux, au profit de plusieurs associations d'aide aux migrants.
C'est pas simple, ça.
Pourquoi?
Plusieurs associations.
Tout ça, Clamecy, Nagui.
Ça la rend humaine.
Salaud.